Notre collègue consacré à Michel Oregon, qui va se poursuivre cet après-midi avec Sarah El-Materi. Elle est chercheuse, historienne de la littérature, spécialisée de la littérature du 19e et 20e siècle. Elle enseigne à l'Université Lumière Lyon 2. Elle a organisé avec Françoise Oregon, ici présente, et Véronique Faux-Vincenti, l'exposition Michel Oregon, un autodidacte toujours sous la brèche, au musée de l'histoire vivante à Montreuil en 2022. Elle est co-rédactrice en chef de la revue électronique pour la vie des idées, membre de plusieurs comités de rédaction, parmi lesquels ceux de 1900, revue de l'histoire intellectuelle des études sociales. Sarah El-Materi s'intéresse aux relations qu'entretiennent la littérature et les idéologies, particulièrement aux genres et aux supports jugés mineurs. Donc, la presse, essais, écrits des femmes, ouvriers, productions pornographiques. En 2019, elle publie aux éditions du Seuil un essai sur l'anti-intellectualisme intitulé « La haine des clercs ». On lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Merci de cette belle présentation. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci aussi de cette invitation. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de Michel Oregon. Merci à Thierry Maricourt. Merci à Raphaël Romney, à la revue Fragments. Merci à Radio Libertaire de permettre la diffusion, la rediffusion de nos interventions. Quand Thierry Maricourt m'a contacté et qu'il m'a demandé à quel titre je souhaitais intervenir, j'ai répondu bêtement au titre d'universitaire, spontanément. C'était une bêtise, j'aurais dû dire que je venais en voisine, puisque j'habite Ménilmontant, le meilleur quartier du monde, que je venais en camarade et que je venais en lectrice. J'espère ne pas avoir préparé quelque chose de trop universitaire. Mon idée étant de donner la parole le plus possible à Michel Oregon, je vais citer de très longs fragments d'archives qui appartiennent à la collection Michel Oregon et Françoise Oregon. Et je remercie Françoise de non seulement partager ces archives avec un très grand nombre de chercheurs, mais de rendre possible aussi une diffusion plus large aujourd'hui. Et vous avez à l'écran une très belle médaille que je vais de ce pas commenter. Mon intervention s'intitule, peut-être de manière trop ambitieuse, « Michel Oregon et le savoir ». Sur la médaille à l'effigie de Michel Oregon que la Monnaie de Paris a frappée en 1977, le graveur James Guittet, le plus vieil ami de Michel Oregon, a placé au centre, dans un cercle, une silhouette dont on ne sait si elle est humaine ou végétale. Certains y verront un arbre chargé de feuilles ou de fruits, d'autres une allusion à l'homme, telle que l'a représenté Léonard de Vinci après avoir étudié le traité d'architecture de Vitruve, et c'est pas anodin que ce soit un traité d'architecture. Les plus engagés ou les plus imaginatifs, et ce sont peut-être les mêmes, y devineront peut-être une référence cachée au A cerclé des anarchistes. De part et d'autre de cette figure sont inscrits les mots « littérature » et « architecture ». En dessous, « art plastique ». Un document que Françoise Oregon a bien voulu me transmettre et que peut-être, Giuseppe, tu pourrais mettre à l'écran, c'est la deuxième photographie, détaille le riche symbolisme de la médaille. Je cite quelques extraits de ce document qui va très bientôt apparaître à l'écran. Petit 1, alors c'est petit, hein, je suis désolée, mais je lis pour vous. L'art et l'environnement dans le social. Deuxièmement, l'homme au cœur de la cité. Troisièmement, réalisme et utopie. Quatrièmement, spiritualisme. Le cercle inscrit dans un carré sur la médaille renverrait à la synthèse du créé et de l'incréé. Quant à la contraction du symbole de l'arbre et de l'homme, elle marquerait, je cite encore, régénérescence, cycle de la vie, les fruits apparaissant comme un symbole de la communauté humaine. J'ose ajouter ma propre interprétation. Cet arbre me rappelle l'arbre de la connaissance, mais un arbre de la connaissance qui serait aussi un arbre de la liberté. Car Michel Oregon a œuvré sa vie durant pour que cette dernière, la connaissance, c'est pas cette dernière, c'est celle-ci, ne soit pour personne un fruit défendu. Et c'est pour moi le principal message qu'il nous a transmis. Le savoir est un capital, mais un capital qui ne peut être accaparé. Alors associer Michel Ragon, qui ne croyait pas en Dieu et qui ne devait pas feuilleter la Bible tous les soirs avant de s'endormir, peut sembler quelque peu hétérodoxe. Et pourtant, l'image de l'arbre de la connaissance apparaît sous sa plume, et j'en ai été la première surprise, dans le récit autobiographique D'une berge à l'autre. Précisément au moment où Michel Ragon revient sur son passage à la rive culturelle d'en face. Avec les succès de 1953, que je rappelle, la publication d'Histoire de la littérature ouvrière aux éditions ouvrières, la publication d'un premier roman, Drôle de métier, chez Albin Michel, le prix des poètes pour le recueil Cosmopolite et les débuts de Michel Ragon à la revue de critique d'art Simèze. À ce moment-là, le transfuge de classe est complètement désarçonné par ses propres succès. Il écrit à son éditeur et ami Édouard Doléance, qu'on a cité ce matin, dont Thierry nous a brossé rapidement le portrait. Je cite Michel Ragon. « Je n'attendais plus rien, sinon une occasion de passer de l'autre côté, de supprimer moi-même l'erreur que j'avais commise en croyant que la culture était le bien. » Et il souligne le bien. Alors que dans l'état présent des choses, l'intelligence et la culture sont, pour le fils du peuple qui n'aborde pas la filière suivie, disons par Guéhenno, un mal. Il souligne un mal. Je suis revenu, le mois dernier, très triste, d'un séjour dans ma famille en Vendée. J'ai retrouvé un petit cousin que j'ai connu bébé, puis garçonnet, et qui m'a toujours ressemblé. Il m'aime beaucoup, et je me suis aperçue avec effroi qu'un second Ragon allait quitter la terre et les outils, seule valeur possible pour nous, pour le domaine aventureux des choses intellectuelles. Et là, je coupe la citation. Et je vous l'indique parce que je suis une bonne universitaire. Au fond, ces vieilles légendes bibliques sont toujours pleines de symboles, toujours valables. L'arbre de la connaissance qui causa le malheur d'Adam amène toujours le malheur sur ses descendants, sauf pour les fonctionnaires de l'arbre. Et on reviendra à cette question des fonctionnaires de l'arbre. Dans Michel Ragon, singulier et pluriel, la biographie qu'il lui a consacrée à l'occasion du centenaire de sa naissance, centenaire que nous célébrons aujourd'hui ensemble, André Derval, ici présent, compare l'ancien bouquiniste non à un homme arbre, mais à un homme livre, ou plutôt, dit-il, un homme bibliothèque, tant lue qu'écrite. La bibliographie personnelle de Michel Ragon est riche de plus d'une centaine d'ouvrages de genre et de formats variés. Recueil de poèmes, récits et romans, réflexions sur les arts plastiques, il y a à peu près 45 volumes, sur l'architecture, j'en ai compté une vingtaine, mais évidemment il faudrait demander au vrai comptable, hein, qui est devant moi, le bibliographe de Michel Ragon, le décompte précis. Sur la critique littéraire, une dizaine de livres, à quoi s'ajoute une quantité impressionnante d'articles, de textes d'accompagnement. Alors on appelle texte d'accompagnement, préface, postface, texte de catalogue de musée par exemple, et même un doctorat d'État que Michel Ragon a soutenu en décembre 1975 à 50 ans. Donc une production abondante, traitant aussi bien de l'art moderne que de l'architecture et de l'urbanisme, de la littérature que de la chanson, du dessin de presse que de l'humour. Qu'on ne prenne pas pour autant Michel Ragon pour un éclectique ou un touche-à-tout. Il rejetait cette étiquette, délégitimant à ses yeux. Pour autant, comme on le verra, il entretenait un rapport compliqué à la spécialisation. Il avait développé une indéniable expertise dans différents domaines, sans solution de continuité entre ces différents domaines, à la faveur de passerelles explicites ou implicites. Et c'est sa personne qui faisait le pont. C'est sa personne qui donnait toute sa cohérence à une pensée que je qualifierais de généraliste. Et attention, ce n'est pas du tout dépréciatif dans ma bouche, au contraire, je crois dans la sienne non plus. Généraliste, sa pensée au sens où elle est animée par la volonté d'une transmission au plus grand nombre. Cette transmission suppose d'adapter l'écriture et les supports. Il y a d'abord une question de ton. Le ton de Michel Ragon est alerte et chaleureux. C'est un ton une écriture qui est claire, sans didactisme excessif, et sont des livres plutôt que des articles. D'ailleurs, il le dit, il a écrit beaucoup d'articles, mais souvent les articles sont la base d'une réalisation plus ample qui devient un livre. Avant de devenir, à partir des années 1980, le romancier populaire qui publie chez Albin Michel, Ragon avait choisi de confier à Robert Laffont, Hachette ou Casterman, les ouvrages « Où vivrons-nous demain ?» paru en 1963, « L'urbanisme et la cité » paru en 1964 et « La cité de l'an 2000 » paru en 1968, afin qu'ils puissent trouver un large public. Et dans le sillage de ces publications, il avait pris la direction des collections « Géographie littéraire de la France » et « Mémoire populaire » chez Slatkin Reprints, ainsi que de la collection « Synthèse contemporaine » et de la collection « MO » pour « Mutation orientation » chez Casterman. Comme il le déclarait avec une pointe d'humour, je le cite, « Ça ne vous met pas en très bonne position dans l'intelligentsia parisienne, ni dans les structures de l'université, mais par contre, vous atteignez directement nombre d'étudiants et de lecteurs non spécialistes. » Alors vous avez pu remarquer dans les titres des collections que j'ai énoncées, le populaire et le contemporain. Pour moi, c'est ça vraiment le champ d'étude de Michel Ragon, le populaire et le contemporain. Même lorsqu'il chaussait les lunettes de l'historien, c'était depuis le présent. Alors vous allez me dire, peut-il en être autrement? Est-ce qu'on peut être historien sans être ancré dans le présent? C'est une autre question. Mais en tout cas, pour Michel Ragon, tout se faisait depuis l'actualité, depuis le présent et depuis la vie. Cela explique aussi qu'il se soit surtout intéressé, comme il le souligne lui-même, aux artistes vivants. Et quand il imaginait écrire pour l'art l'équivalent de sa somme sur l'architecture, il précisait « Ce ne serait pas pour recommencer une histoire académique ou universitaire, ce serait pour procéder à une relecture des peintres du passé à travers mon expérience de la moderne. » Et c'est vraiment ce mot d'expérience, c'est une incarnation, hein, pour Michel le savoir. Il n'y a pas de savoir non expérimental, non incarné, c'est-à-dire qui passe vraiment par le corps. C'est ça qu'il faut retenir. Michel Ragon a grandi dans un monde où l'accès aux savoirs académiques était à la fois plus limité qu'aujourd'hui et réservé à un certain public. Ce qui ne signifie pas qu'il ait grandi loin des savoirs. Au contraire, hein, évidemment, le populaire est plein de savoirs. Et d'ailleurs, les élites ont abondamment pioché dans les savoirs populaires. Hein. Et ce qu'on nous fait passer souvent pour des savoirs d'élite sont des savoirs populaires recyclés, emballés, enrobés, etc. Même dans les milieux ruraux, et ça vaut encore pour aujourd'hui, le sociologue Jean-François Lahaye l'a montré, on ne vivait pas hors de l'écrit. Hein. On ne vivait pas hors de l'écrit. Hein. Il faut aussi sortir un peu de ce mythe de « oui, le populaire, c'est la culture orale ». Oui, d'accord. Bon. Culture orale, mais pas que. Et ce sont d'ailleurs les papiers conservés par la mère de Michel Ragon, conservés comme des archives, presque comme des reliques, et notamment la correspondance qu'elle entretenait avec son mari puis son fils, qui permettra tardivement à Michel Ragon de mieux comprendre cette femme et de comprendre l'héritage qu'elle lui laissait. C'est là qu'il a compris qu'elle n'était pas seulement une antagoniste dans sa quête de savoir, parce qu'il a pu avoir, et il s'en est ouvert avec beaucoup de sincérité, le sentiment que sa mère avait parfois été pour lui un adversaire dans sa quête de savoir. Elle qui, jadis, contrariait son désir de lecture par 1000 sollicitations concrètes. Mais on la comprend, la pauvre femme, elle l'élevait seule. Je cite Michel Ragon, « Il y avait toujours de l'eau à puiser à la pompe, des bûches à fendre, du feu à allumer dans un fourneau, des courses à faire pour notre maigre pitance. » Alors que, comme dirait Thierry Marécourt, Michel Ragon avait la rage de lire. Et sa mère lui reprochait de dépenser de la lumière quand il lisait la nuit, comme ses prédécesseurs décrits par Jacques Rancière dans un livre que beaucoup d'entre vous connaissent et apprécient, j'imagine comme moi, « La nuit des prolétaires ». Avant d'aller chez les frères des écoles chrétiennes à Fontenay-le-Comte, en Vendée, le petit Michel a appris l'alphabet auprès de sa grand-mère, Léonie Sourisseau. Je dirais peut-être en conclusion pourquoi c'est important l'alphabet. Ça ressemble à rien l'alphabet, mais c'est le début de tout. Et c'est sa grand-mère qui l'a ensuite initié à la lecture grâce aux fables de La Fontaine, qui étaient alors couramment utilisées comme manuel, et notamment précisément dans les milieux modestes. L'aïeul conservait aussi, comme des trésors, je cite, soigneusement rangés dans l'armoire à linge, la chanson de Roland, Manon Lescaut et l'histoire des Girondins de Lamartine. Pourquoi ces trois titres ? On ne sait pas exactement, mais Michel Ragon lui-même pensait que c'était des livres de prix qu'elle avait peut-être récupérés. 4 volumes que son petit-fils emportera avec lui à Nantes, où il sera contraint de travailler dès l'âge de 14 ans, un curé ayant déconseillé à sa mère de le mettre dans un collège public. Du coup, il n'ira pas du tout au collège. Et il se désolera que les conditions d'éclairage à Nantes ne lui permettent pas... Alors là, on voit l'importance du matériel, hein, parce que le savoir, ce n'est pas que de l'abstraction, hein, il y a aussi des conditions matérielles. Voilà. Vous n'avez pas de lumière, vous ne pouvez pas lire. Vous commencez à devenir presbyte comme moi, 45 ans, eh ben, c'est plus difficile de lire aussi. En tout cas, les conditions d'éclairage là, dans ce logement misérable qui était le leur ne permettaient pas de lire et de relire ces livres qu'il considérait comme, je le cite, « tout son capital ». Et bien sûr, il en empruntait d'autres à la bibliothèque. Il s'agit moins, évidemment, d'un capital financier que d'un capital culturel et surtout d'un capital affectif. Longtemps encore, Michel Ragon va être isolé dans un monde d'adultes et il aura surtout, il le dit lui-même, les livres pour amis. Presque jusqu'à l'âge de 20 ans, nous dit-il. Et cette proximité matérielle avec les livres, il la gardera toujours, s'entourant de bibliothèques. Et là, vous pouvez voir dans un certain nombre, sur certaines affiches, on le voit chez lui, dans son bureau et près de ses bibliothèques. Alors, il faut visiter ses bureaux, pour ceux qui auront la chance de le faire. Moi, je ne connais que celui de son domicile parisien. Mais quand on le visite, on saisit le lien presque charnel que Michel Ragon entretenait avec les livres, les œuvres d'art, et j'ajoute les outils. Car le pan de mur où il a accroché des outils dans son bureau témoigne aussi de l'importance qu'il accordait au savoir-faire. Et bien sûr que qui dit rapport au savoir dit aussi rapport au savoir-faire. N'oublions pas que Michel Ragon a grandi dans un milieu rural, n'oublions pas qu'il a très jeune commencé à multiplier les drôles de métiers, les métiers manuels, et que donc voilà, la question des savoirs manuels est très importante pour lui. N'oublions pas non plus que c'était un homme qui savait faire des livres. Donc il savait les faire intellectuellement, mais il savait aussi les faire matériellement. Hein, et quand on est directeur de collection, ça suppose aussi d'avoir une connaissance matérielle de la fabrication. Michel Ragon avait confié au camarade Nicolas Norito, qu'il interviewait après pour Barricata, c'était en 2006, il lui confiait avoir réalisé un rêve. Son rêve, c'était d'avoir un domaine, je le cite, où se trouvait entouré de ses livres. Donc son rêve, c'était d'avoir un bureau avec une bibliothèque, en somme. Et pour caractériser le rapport de Michel Ragon au savoir, tel qu'il apparaît à travers les espaces qu'il a aménagés, la formule qui me vient naturellement à l'esprit, c'est une formule de Pérec, pensée, barre oblique, slash, comme on dit maintenant, classée. Pensée classée. Les domaines couverts par Michel Ragon sont innombrables et non hiérarchisés. C'est là aussi que c'est un vrai anarchiste. Mais ils sont ordonnés, comme dans l'anarchisme finalement, puisque vous le savez bien, le A cerclé dit aussi la volonté non seulement d'embrasser beaucoup, mais de manière organisée. Alors chez lui, les rayonnages ont évidemment leur logique. Les classeurs conservent sous plastique, spéciale dédicace pour toi Patrick, amateur de classeurs et de plastique, une correspondance abondante et des documents qui sont souvent inestimables. Et chaque œuvre de Michel Ragon, chaque œuvre qu'il a écrite, est préparée par un ou plusieurs dossiers. Dès 1938, Françoise y a fait allusion ce matin, Michel Ragon tâchait de rationaliser son activité intellectuelle en comptabilisant ses lectures dans un petit carnet. Il les quantifie et il les classe par genre, matière, titre et degré d'intérêt. Il y a tout un système de petites étoiles. Tout en travaillant à temps plein, il lut 286 volumes en 1943. Bon, quand on sait qu'il y a 365 jours dans l'année, vous faites vite le calcul. Hein. 286 volumes lus la nuit, alors qu'il travaillait à temps plein. Alors, si ça, pour la petite histoire, le décompte, à cette époque-là, c'est 3 d'histoire, 7 de géographie et de voyage, 36 dans la catégorie divers arts, sciences, biographies, 21 en philo et religion, et 69 romans, mémoires et assimilés, 39 pièces de théâtre, 111 livres de poèmes. Moi, ce que je retiens, c'est le souci du classement. Ce souci du classement qui accompagne l'ordonnancement des idées est récurrent chez les autodidactes, et de manière générale, on le retrouve chez beaucoup d'auteurs issus d'un milieu modeste. C'est le cas, par exemple, chez Henri Poulaille. dont l'incroyable fond est en cours de valorisation par la ville de Cachan. Il y a eu déjà deux colloques poulailles organisées à Cachan autour de ce fond, et on peut visiter la bibliothèque de Poulailles, qui n'est pas encore totalement inventoriée, et les dossiers que Poulailles constituait. Et là, c'est pareil, il y a une manie du classement. Une frénésie du classement. Pour Michel Ragon, classer était aussi une manière de juguler ce qu'il appelait la tentation de l'encyclopédisme. Tout autodidacte, disait-il, risquait de s'y perdre. Et de ce point de vue, Henri Poulailles constituait à la fois pour Michel Ragon un modèle et un anti-modèle. À trop vouloir étreindre, Henri Poulailles, le théoricien de la littérature prolétarienne, aurait fini par mal étreindre. Michel Ragon partage peu ou prou le jugement de Blaise Cendrars sur Poulailles. C'est un jugement que Michel Ragon reproduit dans D'une berge à l'autre, en 95. Je le cite. Il parle de Cendrars, lequel parle de Poulailles. Cendrars le considérait, donc Poulailles, plutôt comme un autodidacte érudit, un puits de science hétéroclite, un dingue de l'imprimé, une sorte de nouveau Gustave Le Rouge, ce docte polygraphe qu'il avait connu en 1907, auteur de brochures anonymes qui se vendaient dans les kiosques et de romans d'aventure. C'est Cendrars qui parle. « Poulailles a perdu son temps avec sa clique prolétarienne », me disait-il. « Il est étouffé par une nuée de médiocres auxquels il dispense un savoir qui est immense. Quel gaspilleur d'énergie ! Il aurait mieux fait de s'abandonner à sa vocation encyclopédique. Poulailles, c'est une bibliothèque fourvoyée. » Expression magnifique, mais terrible. Poulailles, c'est une bibliothèque fourvoyée. Ragon construisit sa propre bibliothèque avec ce contre-exemple en tête et avec l'ambition, j'imagine, de ne pas se fourvoyer. Et dans le recueil d'entretien, j'en ai connu des équipages, il explique. Je cite encore. Je me suis interdit d'aborder trop de domaines, tous les domaines, cette grande tentation des autodidactes. Je me suis interdit certains secteurs pour mieux entrer dans d'autres, pour mieux les approfondir et ne pas rester superficiel. Jean-Paul Sartre, vraiment le prototype de l'intellectuel bourgeois contemporain, se moque dans la nausée de l'autodidacte qui, dit-il, s'instruit dans l'ordre alphabétique. Je revendique d'avoir été cet autodidacte qui lisait tout par ordre alphabétique. J'ai donc découvert la littérature seulement par le biais des petits classiques Larousse que j'achetais d'occasion chez un bouquiniste de Nantes. Fin de citation. Donc les fils à papa peuvent se targuer d'avoir des préférences dans l'éventail des lectures qu'on leur propose, mais les fils du peuple, eux, là non plus, n'ont pas le choix. Et Michel Ragon le rappelle, sans détour, je cite encore, « Si on lisait, lorsque l'on lisait, on se contentait de ce qui se trouvait là. » Donc ça peut être le dictionnaire, ça peut être la Bible. Tout à l'heure, j'ai fait des blagues sur la Bible, mais ça peut être la Bible. N'oublions pas que Proudhon a annoté toute sa vie la Bible. Ça peut être l'almanach des postes. D'ailleurs, la forme de l'almanach, c'est une forme populaire. Pouget l'a utilisé. Ce sont des formes qui étaient des formes itinérantes qui permettaient aussi le mélange des genres. Une lecture facile. Alors, j'en reviens à la critique de Sartre. Sartre critique l'autodidacte, et cette charge sartrienne pèse comme une malédiction obsédante pour Michel Ragon, qui a commencé par s'instruire dans des livres de prix récupérés on ne sait où, puis par se plonger dans les dictionnaires et les éditions scolaires, notamment les petits classiques Larousse. C'est intéressant parce qu'il revient dans plusieurs livres, dans plusieurs entretiens sur la citation de Sartre et ce mépris en fait de Sartre, ce mépris. Qui est aussi une forme de mépris de classe. C'est par ordre alphabétique et dans des petits classiques et dans des abrégés que Michel Ragon a découvert la philosophie. Il va se passionner pour Rousseau, pour Proudhon. Chateaubriand et Peggy viendront plus tard. Verne, je ne sais pas trop quand c'est, j'imagine que c'est pendant l'enfance et ensuite à Nantes. Et évidemment la poésie, genre auquel Michel Ragon consacrera ses premiers textes, ce qui n'a rien d'étonnant, car la poésie est une porte d'entrée pour qui aspire à pénétrer le champ littéraire, mais aussi une voie d'accès privilégiée à la création au sein des classes populaires, au moins depuis le XVIIIe siècle. Ça, ce sont des choses aussi qu'on a un peu oubliées aujourd'hui, parce que ça revient avec le rap, le slam, etc. Mais parfois, on a tendance à penser que la poésie, c'est un art de classe. Mais non, en fait, la poésie, c'était vraiment le béaba de la création, ce vers quoi allaient en premier les paysans et les ouvriers quand ils prenaient la plume. pas du tout le roman. Aussi parce que ça permet des formes courtes, la poésie. Voilà. De cette formation, largement autodidactique, Michel Ragon tirera à la fois une fierté et une frustration. Il confie, se trompant peut-être, parce qu'il est toujours très modeste, « Il m'a fallu 20 ans pour rattraper ce que j'aurais pu acquérir en faisant des études de lycée. J'ai toujours eu 20 ans de retard dans ma culture intellectuelle. » Moi, je dirais que sur certains sujets, comme l'histoire de l'architecture d'avant-garde, il avait plutôt 20 ans d'avance. De ses frustrations productives, il lui est resté un caractère besogneux, au sens noble du terme, et il le revendique, d'ailleurs, dont j'en ai connu des équipages. Comme l'artisan qui polit un objet, il a remis certains de ses livres sur le métier, les a amendés, remaniés, augmentés. Il a renoncé à en écrire d'autres. Il n'assumait plus complètement son premier essai, Les Écrivains du Peuple, historique, biographie, critique, paru chez Jean Vignon en 1947, qui est la matrice d'une histoire de la littérature ouvrière qui paraît aux éditions ouvrières en 1953 et qui aboutira ensuite à l'histoire de la littérature prolétarienne de langue française, qu'on connaît, publié chez Albin et Michel en 1974 et réédité en 2012. Dans une lettre de 2006 à un étudiant qui lui avait consacré son mémoire de master, Michel Ragon exprime sinon des repentirs, du moins des regrets. Je cite. « Vous avez suivi avec une si sympathique attention mes contradictions, qui sont celles de la vie, qui va, qui se contredit, de ma fascination technologique au doute, voire au reniement, mes naïvetés. » Mais on avance en tâtonnant. Contrairement aux historiens universitaires, spécialistes d'une époque donnée, d'une seule matière fixée, combien j'ai envié souvent Duby ou Le Roi la Durie. Il n'en reste pas moins que le livre de l'architecture moderne, qui ne figure plus depuis longtemps dans mes listes du même auteur, a été écrit trop tôt. Le problème est que j'ai toujours publié mes tâtonnements, mes premières ébauches, trouvant trop facilement des éditeurs, quitte à regretter ensuite ces publications trop hâtives. C'est ainsi que tous mes romans, avant L'accent de ma mère, sont par moi interdits de réédition et que nombre de mes livres épuisés ne seront jamais réédités parce qu'ils ont été avantageusement remplacés par des ouvrages plus neufs qui, eux-mêmes, risquent. Vous avez bien décrit ce roman jamais achevé de l'autodidacte toujours sur la brèche. Et c'est cette dernière citation qui nous avait inspiré le titre de l'exposition que Françoise Ragon, Véronique Faux, Vincentier et moi-même avions organisée au Musée de l'Histoire Vivante de Montreuil il y a de cela 2 ans. Alors qu'est-ce qui frappe dans cette lettre, qui est une lettre très émouvante et qui est d'autant plus émouvante qu'on sait que le jeune étudiant qui avait fait ce mémoire de master a disparu dans tous les sens du terme peu après l'avoir écrite. On a perdu sa trace et il s'avère qu'il s'est suicidé. Donc c'est une lettre qui est vraiment très émouvante par ce que Michel Ragon a dit et parce qu'on sait en fait de la personne à qui elle a été adressée. Ce qui frappe, c'est à la fois l'humilité de Michel Ragon, son honnêteté intellectuelle, sa réflexivité et une forme de conscience. Alors qu'on soit d'accord, il a publié beaucoup, il a publié ses tâtonnements, mais ce n'est pas comme certains auteurs bien en cours qui publient tout leur petit caca. Non, lui, il n'a jamais été dans cette logique productiviste. Moi, je le vois plutôt comme une volonté de se prouver à lui-même, en tant que fils du peuple, et de prouver à ses proches qu'il était capable de publier, en dépit de ses origines, et qu'il était aussi capable de partager son savoir avec les autres. Et dans cette volonté d'amendement perpétuel, de correction perpétuelle, moi, je vois une volonté d'amélioration, finalement, qu'il y a quelque chose aussi de l'anarchisme, peut-être dans sa définition la plus individualiste. Hein, se perfectionner, faire la révolution en soi d'abord. Ce qui frappe aussi, c'est son appétit de connaissance, sa soif de savoir. Et ces métaphores alimentaires, appétit, soif, s'imposent d'autant pour caractériser le rapport de Michel Ragon aux nourritures intellectuelles que dans Mondanité, un des premiers poèmes qu'il a publié, c'est un poème plein de révolte, composé à Nantes en décembre 1944. Michel Ragon évoque ces nuits de prolétaires qui travaillent à plein temps dans ces termes. Je me souviens de mes nuits écoulées parmi des livres, tant de livres qu'il fallait boire pour accrocher ma vie rêvée qui recule et qui fuit comme un mirage. Donc vous le voyez à travers cette citation, la culture pour lui est vitale. C'est comme l'eau qu'on boit. qu'elle se constitue de livres ou d'œuvres d'art, elle est vitale. Et Pierre Soulages relèvera l'appétit, c'est le mot qu'il utilise, de Michel Ragon pour l'art contemporain. Michel Ragon parlait, lui, de boulimie à propos d'un auteur qu'il admirait et qui était Octave Mirbeau. Je cite Michel Ragon, « J'aime aussi la boulimie d'écriture de Mirbeau, qui vient de sa générosité. Lorsqu'on me dit que j'écris trop, que je publie trop, je me réfugie une fois de plus près de mon cher Octave. Et il me montre l'amoncellement de ses 1300 articles, de ses 2500 lettres, de la ribambelle de ses contes et de ses romans et de ses chroniques et ses pièces de théâtre. Ah oui, Mirbeau, c'est vraiment quelqu'un que j'aime et auquel j'aimerais ressembler. » Donc on voit l'identification et rétrospectivement, le fait que cette boulimie qu'il prête à Mirbeau, c'est aussi la sienne. Dans « J'en ai connu les équipages », Michel Ragon dit rétrospectivement aussi n'avoir aucune seule ambition, qu'il conserve d'ailleurs toujours, une avidité de connaissances. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est le lien entre boulimie de lecture et boulimie d'écriture, parce que les deux s'articulent, bien entendu, Michel Ragon ne dissociant pas lecture et écriture. Sa boulimie de lecture débouche sur une sorte de graphomanie. Tant d'activités, de livres, d'articles, c'est trop, écrit-il en 2006 à Sylvain Benat. De le savoir par vous avec tant de précision me plonge dans une grande fatigue rétrospective, écrit-il. Alors, loin de se contenter, comme beaucoup d'autodidactes, d'emmagasiner un savoir abstrait et ancien, Michel Ragon en a tiré une œuvre. Il a toujours regardé vers le futur, un futur qu'il rêvait plus égalitaire. Et dans un texte auquel j'ai fait allusion plus tôt, Soulages remarquait qu'il avait une attention sincère, active, sans a priori, à laquelle ses sympathies libertaires ne devaient pas être étrangères, et qu'il poussait vers ce qui lui paraissait hors des lieux communs traditionnels de la peinture, de toutes les théories, y compris celles nées avec l'art abstrait d'avant-guerre, comme des idéologies dont l'époque était pourtant pleine. Fin de citation de Soulages. Et de fait, Michel Ragon a toujours été jaloux de son indépendance et assez réfractaire au dogmatisme. Dans « Lettre à un ouvrier à propos de l'art actuel », qu'il publie d'abord dans la revue Simèse en 1954, et qui est une réponse à l'écrivain prolétarien Constant Malva, qui est mineur de profession, et qui a pris, comme d'ailleurs Poulaille, la passion de Ragon pour l'art abstrait, pour de la connivence avec les bourgeois. Et Michel Ragon lui fait une réponse amicale mais ferme et assez bien sentie. Je vous en livre un extrait. « Tu me dis à propos de l'art actuel que tout le monde en a marre. Qui ça, tout le monde ? L'humanité, le Figaro, l'Institut ? Ce sont en effet les trois piliers de la réaction contre l'art d'avant-garde. Car en effet, lorsque Fougeron peint dans le style davidien les ménagères aux halles et les mineurs au travail, cela est aussi rassurant pour le bourgeois que les femmes légères de Jean-Gabriel Domergue. La bourgeoisie et l'État font une grande publicité aux peintres réalistes, dits les peintres témoins de leur temps, qui vont en autocar peindre les ouvriers au travail. Une grande exposition a lieu tous les ans qui est consacrée à ces peintres prolétariens, et il met entre guillemets, et le vernissage est inauguré par la présidence de la République. Par contre, le salon de mai, pour réunir les artistes les plus valables d'aujourd'hui, de Picasso aux abstraits, n'a point cette consécration officielle. » Fin de citation. Alors pour terminer, Thierry a dit ce matin que j'assisterai beaucoup sur l'autodidactisme. Comme je ne voulais pas faire trop de réemploi par rapport à ce que j'ai déjà pu dire par ailleurs, j'en ai assez peu parlé, mais vous avez compris que c'était un peu le fil rouge de l'intervention. Je voudrais dire un mot, mais vraiment rapide, du rapport de Michel Ragon aux intellectuels, parce que, comme vous le savez, vous l'avez appris par la présentation, j'ai consacré un essai à cette question de l'anti-intellectualisme. Et peut-être que sous certains aspects, on pourrait ranger Michel Ragon du côté de la réaction d'une hostilité aux intellectuels ou aux académismes. Et en même temps, pour moi, Michel Ragon est un intellectuel, et bon, c'est souvent le cas des anti-intellectualistes, hein, d'ailleurs, c'est qu'ils sont eux-mêmes des intellectuels, c'est juste que ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas des intellectuels d'État, par exemple, ce n'est pas des fonctionnaires de la pensée, comme on disait parfois de manière polémique. Et en même temps, il faut envisager les choses de manière très tendue, parce que si Michel Ragon était attaché à l'apprentissage non institutionnel, il était aussi conscient des limites d'un apprentissage non institutionnel, et il luttait pas du tout, par exemple, contre l'école. Au contraire, Il aurait aimé, lui, avoir accès au collège et il regrettait bien de ne pas avoir pu bénéficier de la bourse dont il aurait pu bénéficier en tant que pupille de la nation. Donc, certes, il était contre les académismes et les intellectuels professionnels, contre les donneurs de leçons, contre ceux qui avaient une pensée trop dans le moule, quoi, trop formaliste. Et on peut trouver dans certains de ses textes, et je pense par exemple à un texte qui s'appelle « Psychologie de la franchie » dont Françoise conserve un magnifique manuscrit et qui a des pages décisives sur la question de l'autodidaxie et sur le portrait de l'autodidacte. C'est un texte qui a en partie été publié, mais seulement en partie, dans la revue Défense de l'Homme en 1952, et où là on a des notations qui sont clairement anti-intellectualistes, et vous en trouverez aussi ailleurs. Il faut dire que les intellectuels en place n'ont pas été toujours très, comment dire, tendres avec Michel Ragon. Certains historiens de métier ont pointé certaines failles ou limites dans son œuvre historique, dans ses romans. Bon, on sait qu'il y a eu des fortes polémiques autour de la question de la Vendée. Les historiens de l'architecture aussi avaient parfois une certaine défiance, en tout cas les historiens spécialisés, qui considéraient qu'en fait, cette histoire de l'architecture, elle ne pouvait être écrite que par des architectes et que de manière très notionnelle, conceptuelle, etc. Et en même temps, Michel Ragon a obtenu une reconnaissance qui souvent dépasse de très très loin celle de ces historiens de l'architecture professionnelle. Alors il faut quand même souligner, pour rester toujours dans l'attention, et ce sera presque un de mes derniers mots, que Michel Ragon a tout de même été soucieux d'obtenir une validation, une reconnaissance. Mais c'est important aussi dans la culture ouvrière et prolétarienne la question de la reconnaissance. On a tous besoin de reconnaissance, tous. Ça peut être la reconnaissance de son papa et de sa maman, ça peut être la reconnaissance de ses amis, de ses camarades. C'est important la reconnaissance. Et c'est poser la question de la thèse. Ça permettait aussi d'avoir un poste. Michel Ragon avait commencé à enseigner au Canada, à l'université McGill, juste avec son certificat d'études primaires, mais bon, certains voyaient ça d'un mauvais œil. Et puis en France, vous savez, on ne vous permet pas d'encadrer des travaux de recherche si vous-même n'avez pas été adoubé. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles, à son retour en France, Michel Ragon a demandé à bénéficier de la loi Edgar Faure qui lui permettait de reprendre des études et d'accéder au diplôme, et qu'il est devenu docteur ès lettres à 50 ans. Voilà. Alors, en conclusion, je ne dirais pas grand-chose, sinon peut-être que le savoir pour Michel Ragon lui a fait l'effet d'une révélation, peut-être comme la révélation religieuse pour d'autres. Et je terminerai en citant une image, parce que je sais qu'elle est chère à Françoise Ragon, c'est celle du rideau qui s'ouvre. C'est une image qu'on trouve dans plusieurs textes de Michel Ragon. On le trouve évidemment dans les romans, dans la mémoire des vaincus, quand il fait dire au personnage de Fred « Tu devrais apprendre l'alphabet Flora, c'est comme un rideau qui s'ouvre. Hein. » Et on la trouve aussi dans des textes autobiographiques, parce que les deux sont liés, évidemment. La fiction, elle est toute imprégnée de vie et de la vie de Michel Ragon. Par exemple, dans « D'une berge à l'autre », quand il raconte qu'il a 24-26 ans quand le monde s'ouvre devant lui, comme un rideau de théâtre. Et voilà, le rideau tombe, pour moi en tout cas. Merci.
C'est très difficile d'intervenir après une prestation de cette qualité-là. Moi, bravo.
Merci. Mais,
et en plus, à plusieurs moments, surtout au début de ton intervention, il y a les larmes qui montent aux yeux, parce que je me suis retrouvé, comme je pense beaucoup de gens ici, dans des réflexions, des parcours, moi, je pense que tu l'as bien senti, bien. Et tu as donné un sens, pour moi, tu m'as beaucoup aidé. Voilà, merci.
Merci beaucoup. Et c'est Michel Ragon qui fait tout ça. Il a cette capacité à nous émouvoir et il a, tu vois, cette capacité à nous parler d'où qu'on vienne, parce que moi, évidemment, je n'ai pas eu son parcours. J'ai un pur produit de l'institution scolaire. Mais j'ai dans ma famille proche, mon père, pour parler de lui, quelqu'un qui pourrait, toute proportion gardée, avoir un parcours comme celui de Michel. Donc voilà, c'est ça. Ça touche plein de gens et... C'est vrai que son parcours, il suscite aussi l'admiration. Il suscite une très grande admiration. Ce qu'il a fait et puis la manière dont il a partagé, parce qu'il aurait pu garder tout ça pour lui. C'est pas ce qu'il a fait.
Je profite que j'ai le micro, puisque je l'ai. En vous écoutant, en fait, j'ai pas mal pensé à Lise Reclus, sur qui j'ai pas mal travaillé. Et ça me faisait penser à, comment dire, cette idée de l'autodidaxie et du diplôme. Reclus n'est pas exactement un autodidacte, mais finalement, il a fait peu d'études au-delà du, disons, de ce qui serait le bac ou quelque chose comme ça. Et en fait, la sensation, enfin, ce qui semble les réunir, c'est l'idée que l'apprentissage, c'est celui de toute la vie, en fait. Que ça ne s'agit pas d'avoir une étape qui est validée par un diplôme, et puis c'est fait. Un petit peu plus loin. Mais que finalement, c'est ce travail de l'artisan, polir et revenir toujours sur le métier, qui fait ce savoir qui devient de plus en plus large et qui est de plus en plus connecté.
Bah, sauf erreur, Élisée Reclus, tu me corriges si je dis une bêtise, mais il venait d'un milieu, son père n'était pas pasteur ou quelque chose comme ça, donc il y a quand même ce rapport à l'écrit, à l'exégèse, aux commentaires, etc., qui est très porteur. Puis il a ses frérots, donc il y a une belle fratrie d'Othello quand même là. Mais bon, ils ont des points communs, effectivement, c'est les voyages aussi, c'est l'incarnation, c'est voilà, la géographie, aller sur le terrain. Michel Ragon a aussi beaucoup voyagé. Après, Françoise nous dira s'il a beaucoup lu Élisée Reclus. Là, il l'a lu, ça c'est sûr, mais je n'ai pas de texte en tête où il le citerait précisément.
Bonjour, merci aussi pour votre intervention. Les parallèles avec Henri Poulaille m'ont beaucoup intéressée parce que je m'occupe du fond Poulaille.
Oui, je te connais, je te reconnais. Je suis presbyte, mais pas encore, je reconnais quand même les gens dans la salle.
Et ça m'a intéressée cette question forcément du classement et de la quantification. Et Poulaille, alors dans Seul dans la vie à 14 ans, son double littéraire, Louis Magneux, lui, quantifie ses lectures, les classes, mais il quantifie et classe aussi ce qu'il n'a pas lu sur des petits cahiers. Des petits cahiers, d'ailleurs, on en retrouve au fond Poulaille. Et je me demandais si Michel Ragon, lui aussi, avait ce souci de classer, ou en tout cas d'inventorier ce qu'il devait lire, et en complément de ce qu'il avait déjà lu. Et il y a aussi quelque chose qui m'a intéressée, c'est cette question du décompte. Des comptes des lectures. Parce que dans Seul dans la vie à 14 ans, là encore pour Poulaille, il décompte, donc il compte ce qu'il lit, le prix que ça coûte d'acheter des brochures, des journaux, et il parle aussi il quantifie le temps de fabrication de ses dossiers. Et il dit ça va me prendre tant de soirées, tant de semaines. Donc il y a cette question du temps qui est très importante. Et voilà, je me demandais s'il y avait ça aussi chez Michel Ragon, de quantifier à la fois les lectures, mais aussi la fabrication des dossiers et le temps de l'écriture.
Là, je pense que Françoise pourrait te répondre mieux que moi. Je crois pas, j'ai pas vu, en tout cas, dans les documents qu'elle m'a montrés. Mais par contre, là, tu te rappelles, en fait, qu'à la première journée Poulaille, j'avais justement fait une remarque, en fait, sur cette histoire de classement, parce que ça me frappe. C'est quelque chose qui est très courant, en fait, dans les milieux ouvriers. Alors ouvriers, prolétariens et même au sens très large. J'avais assisté à ta journée, je venais de lire en fait une féministe chicane qui s'appelle Gloria Anzaldúa, qui a une vie très difficile et qui passait sa vie à classer et qui a laissé un fond qui maintenant est consulté. Enfin, les gens viennent du monde entier pour voir. Et donc je m'intéresse beaucoup à ce geste en fait. Je crois que c'est Rancière qui a dû en parler un peu. C'est pas dans La Nuit dans les prolétaires en fait, c'est dans son autre bouquin dont le nom m'échappe en fait, sur un ouvrier. Quelqu'un va m'aider dans la salle, en fait. Ça va me revenir. Il parle de ça, en fait. C'est le côté livre de compte, journal de bord. Et puis, évidemment, on note, quand on a peu de temps, on note. On essaie de rationaliser au maximum pour pouvoir faire des choses. Et quand on a peu d'argent, évidemment, qu'on note les prix, qu'on compte, qu'on calcule. Voilà, il y a quelque chose de... vraiment du livre de compte, quoi. Presque de la tenue de compte. Et quand on a beaucoup d'argent, on n'a pas forcément besoin de tenir des comptes. Mais quand on en a peu, quand on a peu d'argent et peu de temps. Donc voilà, je n'ai pas de réponse à t'apporter, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il faudrait lancer un étudiant de master, en fait, sur ce sujet, sur la question de l'archivage en milieu prolétarien. Moi, ça m'intéresserait beaucoup, en fait, de lire des choses sur ça. C'est une intuition, je ne sais pas si elle est valide, mais voilà, les copains ont peut-être d'autres exemples à apporter. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. archiver, c'est aussi laisser une trace. Je pense aussi à une autre pratique militante qui était la pratique du scrapbook, enfin qui est, c'est-à-dire de découper des articles de presse, de les conserver soit dans des dossiers et parfois de les coller dans un cahier. Ça s'est beaucoup fait en fait. Ça s'est fait dans les milieux militants noirs aux États-Unis. Ça s'est beaucoup fait dans les milieux libertaires en fait, de garder des articles sur la contraception. Hop, on découpe, on fait des dossiers, etc. Aujourd'hui, ça ne se fait plus trop. Puisque bon, la dématérialisation aussi a fait que bah, ces pratiques très matérielles se perdent, mais ça a été des pratiques documentaires anciennes et importantes. Et voilà.
Ouais. Quand tu as dit qu'ils connaissaient la famille, Florent,
c'est les animatrices de Radio Libertaire qui sont rappelées à l'ordre sur leur usage du micro.
Non, juste une remarque ou deux. L'autodidacte, je pense, quand on vient d'un milieu ouvrier, c'est en fait, on part, c'est une course à handicap. Et l'autodidacte, c'est un chien fou qu'on met au milieu de livres et, ou de, d'autres créations artistiques. Et je pense que cette volonté de répertorier, de noter, etc., et je l'ai fait un peu aussi modestement, c'est aussi l'idée qu'on peut peut-être rattraper une grande carence et une course à handicap qu'on est sûr de ne jamais vraiment gagner ou rattraper. Et c'est cette volonté de matérialiser concrètement tout un parcours, ce qu'on a fait, par où on est passé. Et on sait aussi qu'il y a des domaines, je parle pour mon cas, musicaux par exemple, ou artistiques, création, où on n'aura jamais les clés, les moyens de combler. Je pense que c'est une lutte contre, pour combler une grande carence quelque part.
Michel collectionnait tous ses articles sur Drôle de métier. J'ai un cahier entier. Après, il l'a collectionné. Il a aussi fait pour Drôle de voyage. Il a fait tous les articles, je pense, jusqu'en 60, même l'architecture, jusqu'en 70 peut-être.
Mais là, Françoise, tu prononces un mot important qui est celui de collection. Finalement, oui. C'est peut-être une même pulsion, sauf que bah, le riche, il collectionne parce qu'il a du temps libre et de l'argent. Ouais. Et puis le pauvre, en fait, il fait des scrapbooks.
Oui, mais ce n'est pas dans un esprit de collection, c'est un esprit de mémoire, je pense.
Oui, la mémoire.
Mais il ne les regardait jamais. Il m'a dit, tu regarderas plus tard, derrière, il y a des livres, ça t'intéressera. C'était ça. Mais jamais il ne me les a montrés.
Oui, oui. Noter pour mémoire, c'était beau cette formule ce matin. Je ne sais plus, c'est Thierry qui l'a dit, quand il a dit finalement, c'est Michel Ragon, la mémoire d'eux, être la mémoire des vaincus, la question de la mémoire. Ouais.
C'était juste pour compléter ce que vient de dire Françoise Ragon. Au fond des archives de la critique d'art de Rennes, il y a, vous le savez peut-être, un fonds d'archives donc, de Michel Ragon. Et parmi elles, il y a de nombreux cahiers qui, effectivement, donnent à voir cette pratique qui vient d'être évoquée de scrapbooking, où on trouve non seulement donc, une collection des articles qui lui sont consacrés dans la presse, après la parution de certains de ses ouvrages. Et puis, ce qui est très amusant, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a de manière assez régulière des petites publicités pour des cours de littérature par correspondance qui datent, qui sont très anciens. Et donc, c'est assez émouvant, en fait, de voir qu'il y avait toujours ce souci d'apprendre à écrire, d'apprendre à faire de la littérature. Voilà. Donc, on peut trouver ça au fond d'archives de la critique d'art.
Merci.
Je ne voudrais pas gâcher la conversation, mais il faut qu'on reprenne un peu les...
Super, merci.